infiniment pour cette passionnante conférence. Restez bien avec nous parce qu'on va discuter un peu. Avant de discuter de ces sujets, je vais demander à Jacques Chauvin et à Philippe Métier de venir. Donc je vous demande de les accueillir avec beaucoup de respect et de bienveillance. Parce qu'ils ont accepté quelque chose qu'on ne ferait peut-être pas si facilement que ça, c'est-à-dire de parler de leur parcours dans le cadre de cette intervention et comme expérience qui est forcément un peu dans ce qu'il a dit et pas complètement puisque chacun est différent. Et donc pour aussi qu'on puisse discuter ensemble de cette histoire qui fait qu'on avance chacun sur un chemin vers des études longues pour ce qui vous concerne. Hein. Tout à fait. Alors, je vais d'abord donner la parole à Philippe Métier, avec qui j'ai le privilège de travailler, puisqu'il est directeur de la SECPA du collège France Bloch Serraza. Voilà, où il est arrivé cette année.
Tout à fait.
Et j'ai découvert que Philippe avait eu un parcours tout à fait particulier et je lui ai demandé de nous en parler, peut-être d'abord de raconter cette enfance un petit peu, voilà. Quelques éléments.
Voilà. Donc je me présente, Philippe Métier, j'ai 50 ans, je suis père de 6 enfants et je suis né en 1960 hein, et la particularité de cette époque c'était que mon père a connu la guerre d'Algérie, donc n'est revenu qu'en 62 avec une maman qui a été obligée de s'occuper des garçons à la maison. Et j'ai vécu pendant 5 années dans les bidonvilles des Francs-Moisins à Saint-Denis, voilà, au départ. Et dans les années 65, les premiers ouvriers pouvaient loger dans les HLM et j'ai donc demeuré dans la cité Balzac où est parti le mouvement Ni pute ni soumise de Vitry-sur-Seine. Et donc j'ai vécu toute ma jeunesse et mon adolescence dans les cités de la région sud, de la région parisienne, voilà, sud-ouest. Hein. Et donc effectivement, une enfance pas trop facile, avec des besoins, hein, et une scolarité difficile. Hein, c'est-à-dire que dès le primaire, je ne faisais pas sens à tout ce qui m'était enseigné. C'est-à-dire que j'essayais bien de comprendre et de travailler. Mais voilà, la loi, elle était pour aller plus loin, il faut réussir. Et un discours souvent négatif lorsqu'on ne réussissait pas. Et puis aussi un regard sur les familles. C'est-à-dire, vous êtes un fils d'ouvrier. Hein, c'est-à-dire, maman travaillait à Panhard, l'usine Panhard. Et mon père était ouvrier électricien. Et ma mère, dans les années 66, a eu un grave accident. Elle s'est fait arracher la moitié d'un mollet. Donc, elle s'est retrouvée sans travail. Donc, vous imaginez un petit peu ce que peuvent être ces moments-là quand il n'y avait pas tous les soutiens qu'on a aujourd'hui hein, et les passerelles dont on parlait tout à l'heure. Donc, merci. Donc mon premier échec, je l'ai connu réellement au collège, hein, où j'ai redoublé ma sixième, déjà dans un premier temps. Pourtant, j'étais ambitieux, je voulais faire de l'allemand, je voulais m'engager sur une voie, sur faire du latin. Et malheureusement, j'arrivais pas à suivre. Bon, vous expliquez pourquoi, je travaillais et je n'avais pas de reconnaissance, si vous voulez, de ce travail hein, que je faisais à la maison. Et mes parents ne pouvaient pas forcément m'aider. Voilà. C'est-à-dire qu'ils travaillaient beaucoup pour pouvoir subvenir à nos moyens. Il fallait faire des heures supplémentaires à l'extérieur. Je ne parlais pas de travail au noir, mais il fallait aller travailler. Et j'ai des parents qui étaient engagés sur le chemin du travail et qui ne pouvaient pas forcément nous aider. Parce que quand la journée était longue, quand elle faisait 10 heures, on n'aide pas forcément ses enfants. On leur dit par contre, et là j'ai entendu tout à l'heure, et ça a fait un peu résonance, effectivement, on avait énormément de limites, parce que justement, de par le fait qu'ils ne pouvaient pas être toujours présents, ils ne pouvaient pas nous aider à finaliser nos besoins pédagogiques, ils étaient cadrants, très cadrants, voilà. Donc des fois trop cadrants. Mais ça a apporté aussi voilà, l'écoute, le respect, la prise de distance et l'envie de démontrer, hein, l'envie de revanche un petit peu. C'est ce que j'ai entendu aussi. Et effectivement, j'ai retrouvé ces sentiments dans le discours de votre travail. Et je vous en remercie parce que, bon, en fait, je me disais, on fait une petite analyse hein, quand même de soi-même en même temps. Hein. C'est pas évident. Et donc, bah voilà, parcours 6e, redoublement de 6e, passage en 5e. Et là, bah oui, toujours de grandes difficultés. Et on m'annonce départ en transition. 4e et 3e de transition. Donc, la filière royale pour les apprentissages à court terme. Hein. Donc, arrivé en fin de 3e, effectivement. J'ai rencontré deux enseignants, un enseignant d'histoire-géographie qui n'était pas quelqu'un qui c'était quelqu'un qui aimait discuter, c'était quelqu'un qui aimait écouter, c'était quelqu'un qui aimait partager des connaissances, des savoirs, sans pour autant juger votre capacité à connaître plein de choses. Par contre, effectivement, il était dans l'écoute et dans le dire, c'est-à-dire... Bah, ce que tu dis là, c'est pas si bête que ça, en fait, finalement. T'as pas toutes les connaissances, mais tu le dis avec tes mots, et c'est pas si mal que ça, parce qu'en fait, effectivement, ça va dans ce sens-là. Alors, la frustration, justement, c'est quand on n'est pas bon à l'école, on manque de vocabulaire, on a peur d'utiliser les mots, on voudrait dire des choses, et puis on les dit pas, parce que ben, ce mot-là, on sait pas l'écrire. Hein, et donc, on va chercher voilà, des itinéraires un petit peu de contournement. Hein, on le retrouve là encore. Pour essayer de dire les choses qu'on pense réellement, mais finalement, quand on le dit autrement, on dit plus ce qu'on avait envie de dire. Voilà. Et ben, c'est pas toujours facile, en fait. Fin de troisième, donc, ce prof d'histoire géo, et puis un professeur de français, une prof de français, dit, ben, finalement, ce garçon-là, on peut peut-être essayer de lui donner sa chance. Hein. Moi, je voulais faire comptable. Et on dit, ben non, le grand frère est passé par un bac technologique de dessinateur industriel. Il y a des débouchés dans ce métier-là. Il faudrait orienter votre enfant là. C'est pas du tout ce que je voulais faire, moi. Hein. De toute façon, ça m'intéressait absolument pas. Et donc, je me suis lancé vers un bac professionnel, hein, ce qu'on appelait le bac F1 à l'époque. Voilà. On y mettait les meilleurs. Et donc avec une vingtaine d'heures d'atelier, bon, je ne sais pas si vous connaissez le système. Et donc, terminale, comme ça ne m'intéressait pas trop et que j'étais quand même toujours en difficulté, je redouble ma terminale. Alors pas de chance parce que je le double avec un accident de moto, ce qui fait que bon, voilà, je passe un peu de temps à l'hôpital. Et donc, voilà, un échec assez massif au bac F1. Et donc, je décide de recommencer une année. Et là, je m'en sors. Mais bon, il faut savoir également que pendant mes années de première et de terminale, je travaillais sur les marchés le mercredi, le samedi et le dimanche. Donc, je faisais mes 40 heures à peu près de cours en terminale et je faisais à peu près une vingtaine d'heures pour ramener l'argent, le beefsteak, le rôti, hein, donc, puisqu'on est dans les années 75, hein, malgré tout. Et 75, 76, 77. Hein. Et là, donc effectivement, c'est là où on accroche les vraies valeurs. C'est-à-dire on se sent utile à quelque chose, on est dans la réussite. Et on se dit finalement, on regarde les autres et on dit pourquoi pas moi. Voilà, pourquoi pas moi. Et malheureusement, 20 ans arrivent, on part à l'armée, on nous oblige, hein, pas d'études longues. On me dit, écoutez, vous ne pouvez pas échapper, il faut partir à l'armée. Et pendant cette année d'armée, je me dis, pourquoi pas rentrer à l'armée. Donc, je passe le concours de gendarme à l'époque et je le réussis. Bon, donc, je pars à l'armée. Je finis, malgré tout, je finis troisième à l'école de gendarmerie. Donc, ce n'est pas non plus négligeable. Mais bon, c'est une première satisfaction, mais sachant que ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire non plus. Hein, c'était, je ne voulais surtout pas être dessinateur industriel. Donc, j'essayais de trouver... un échappatoire. Et donc, j'ai fait pendant 17 ans, j'étais gendarme pendant 17 ans. J'ai fini avec le grade d'adjudant de gendarmerie, donc un diplôme de qualification supérieure de la gendarmerie qui me donnait donc une équivalence de DEUG, hein, de droit administratif et pénal, puisque j'avais un OPJ. Alors, il faut savoir que pendant toute cette période, j'ai été moniteur commando. J'ai passé 12 CTE techniques au niveau militaire. J'ai fait partie des équipes légères d'intervention de la gendarmerie. J'ai été formé par, par le GIGN. Voilà. Et donc, je voulais être enseignant, en fait, pour bien dire les choses. Et quand j'étais petit, à l'école maternelle, j'avais une, je reviens un petit peu, du moins à l'école maternelle, à l'école primaire, au CP, j'avais une enseignante que j'adorais, hein, j'étais peut-être tombé sous le charme, mais voilà, c'était à cette époque-là, je m'étais dit, j'aimerais être enseignant. Et j'avais abandonné très vite l'idée, hein, vous comprenez bien pourquoi. Et à l'armée, bien, je me suis dit, bah non, je vais enseigner aux adultes. Donc j'avais, chaque fois que je passais un diplôme, je finissais toujours dans le trio de tête. Donc je me suis dit, ben, pourquoi pas, quoi, j'ai des valeurs, je vais m'en servir. Donc stratégie de contournement, encore une fois. Et puis, je divorce en 90 et je rencontre mon épouse qui est enseignante. Et elle me dit, bah, écoute, Philippe, tu as quand même des capacités, tu pourrais peut-être essayer de faire quelque chose, tu as un bac, tu as une équivalence, ce serait quand même bien si tu t'ennuies un petit peu, parce que je m'ennuyais un petit peu aussi à l'armée, c'était pas ce que je voulais faire non plus. Hein. Donc je me suis dit, oui, mais est-ce que j'en ai vraiment les capacités? Alors il faut savoir quand même que c'est quand même de la grande souffrance, hein. Très très grande souffrance, parce que vous êtes élevé dans un discours de dévalorisation et vous devez prouver à votre entourage que vous allez réussir. Et là, vous y mettez, vous mettez une sacrée tension. Hein. Je peux vous dire qu'il y a des moments qui étaient très très difficiles, très délicats pour moi, à tel point que, vous verrez, j'ai eu des stratégies, mais qui étaient un peu suicidaires. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. La première chose, déjà, en 93, j'écoute mon épouse et je lui dis, bah, écoute, effectivement, tu as peut-être raison, mais il faudrait que je puisse reprendre mes études, parce que moi, mis à part une équivalence pour être prof, il me faut une licence. Elle me dit, bah oui, bah, on va chercher. Donc, on passe notre temps à faire les universités de la région sud de Paris, hein, Versailles, etc., l'Ouest aussi, et partout, des refus de non-recevoir, c'est-à-dire, bien, écoutez, vous avez un métier. Vous êtes bien, bon, vous êtes gendarme, il n'y a pas de raison que, non, il n'y a pas de place, on laisse la place aux jeunes. Et puis, ben, ouais, un peu découragé, je continue et je tombe sur de vieux enseignants, des vieux briscards, qui me disent qu'ils faisaient partie d'un RASED à l'époque, que j'ai connu par l'intermédiaire de mon épouse qui était enseignante spécialisée, et qui me disent, écoute Philippe, quand même, il y a à la Sorbonne, René Descartes, tu as la possibilité de passer en troisième année en licence. Mais par contre, il faut passer le barrage. Il y avait un examen à passer pour rentrer en troisième année. Et là, ça voulait dire pour moi, sciences de l'éducation, psychologie génétique, moi, j'en avais jamais fait. Donc, il fallait que je présente un concours d'entrée à la Sorbonne en n'ayant jamais pratiqué. Donc, je dis à mes collègues, je dis à mes futurs collègues, je leur dis... mais comment je peux faire? Moi, je ne sais pas. Et ils me disent, bah, écoute, tiens, il y a 2-3 bouquins que tu as à lire. Tu prends ça, des notes de recherche, de travaux d'enseignants. Et ben, je les ai appris par cœur. Et lorsque j'ai présenté le concours à la Sorbonne, ben, j'ai été reçu. Voilà. Donc, je suis rentré en troisième année directement à la Sorbonne. Donc là, c'était déjà un premier passage. Ensuite, ben, il a fallu que je m'avale en une année le programme de 3 ans. De 2 ans, du moins, hein, en même temps que je préparais ma troisième année. Donc, pour vous dire, j'ai tellement lu de livres, hein, et j'ai tellement travaillé que j'en suis tombé malade. C'est-à-dire que lorsque j'ai été reçu à la licence, j'ai eu comme un rejet de la lecture. J'ai eu comme un... Voilà, j'étais surbooké. Et j'étais vraiment... à tel point qu'il fallait que je prépare l'année d'après le concours donc, à l'UFM, et que je me demandais bien comment j'allais faire. Mais franchement, un choc, on est là vraiment dans le choc psychologique, hein, entre tout ce qu'on m'avait mis dans la tête auparavant et la réalité, ce qui s'offrait à moi grâce à ma réussite. Mais ça, c'est le choc des mondes aussi. Hein. À un moment donné, intérieurement, vous, psychologiquement, c'est très très dur. Hein. Donc là, je me suis quand même, c'était une victoire pour moi. Donc je me suis remis un petit peu dedans et j'ai préparé mon concours d'entrée Donc j'ai passé ma licence à l'université et l'année d'après j'ai préparé le concours d'entrée pour être professeur, tout en sachant que je faisais quand même en gendarmerie quelques heures de service, hein, c'est-à-dire ça se comptait à peu près entre 50 et 60 heures par semaine, hein, de travail. Donc il faut savoir que pendant 2 années j'ai pas pris de vacances, c'est-à-dire que toutes mes journées de vacances je les ai passées soit aller le mercredi à la Sorbonne, soit faire les cours du soir, le mardi soir, et le samedi, parce qu'il fallait aussi avoir 80% de présence, hein, pour valider ces UV, hein, donc c'est pas neutre. Donc voilà, alors pensez bien que mes officiers qui voulaient que, ben, comme j'avais réussi une licence à la Sorbonne, ils voulaient que je sois officier. Voilà. Donc on m'attendait un petit peu. Et lorsque j'ai réussi mon concours, donc ma licence, et puis que j'ai réussi le concours d'entrée à l'UFM, j'ai carrément démissionné. Du moins, j'ai pris ma retraite, c'est-à-dire que je n'ai pas pris la route de secours qui m'était offerte, c'est-à-dire continuer à faire mes études tout en ayant la possibilité de garder mon emploi. Je me suis mis la rupture avec l'ancien système pour pouvoir justement me booster pour réussir, c'est-à-dire ne pas me donner le choix de l'échec. Voilà. Donc, réussite à UFM, et à la sortie de cette UFM, tout de suite, mon penchant est allé vers les enfants en difficulté scolaire, qui sont les enfants de SECPA. Et bien sûr, on m'a dit, d'accord, parce que vous savez qu'à l'époque, en 96, il fallait avoir au moins 3 années d'enseignement pour pouvoir rentrer. J'ai joué sur l'âge, là encore, contournement, pour pouvoir rentrer à la SECPA. Et dès la première année, je suis allé voir mon IEN AIS à l'époque et ASH aujourd'hui pour lui dire, l'année prochaine, si je ne pars pas en formation, je retourne en maternelle. Donc, elle m'a inscrit au CAPSAIS et très rapidement, donc j'ai passé mon CAPSAIS, j'ai obtenu mon CAPSAIS, j'ai continué à travailler, donc je suis allé ensuite en classe relais pendant 2 années à Évry Village. Les Tarterets, je ne sais pas si vous connaissez, et donc à Montgeron. Mon inspectrice, devant se faire inspecter, décide de m'inspecter avec son inspecteur général sur une classe relais, et me voilà boosté comme conseiller pédagogique AIS dans l'Essonne pendant 1 année, juste avant de venir en 2003 ici à Poitiers. Et arrivé à Poitiers, on me dit, mais il n'y a pas de place de conseiller pédagogique à AIS, il n'y a que M. Chevalier, il n'y a qu'une seule place, hein, je ne lui en veux pas, hein, c'est comme ça. Et on me dit, il va falloir retourner, soit vous acceptez un poste de conseiller pédagogique dans le milieu normalisé, soit vous retournez en SECPA. Moi, mon cœur était franchement du côté des élèves en difficulté, et donc j'ai fait le choix de partir travailler avec des élèves en difficulté, parce que je crois qu'il est important de passer un certain message, hein, c'est-à-dire, tu es en difficulté, mais qu'est-ce que tu fais toi pour réussir ? Toujours, j'ai eu ce leitmotiv derrière moi. Qu'est-ce que tu fais toi en plus pour te donner cette chance ? Il faut arrêter d'attendre des autres, il faut aller chercher, il ne faut pas attendre que ça arrive. Et ça a été comme ça tout le temps. Voilà. Et donc là, depuis maintenant 2005, je suis directeur de SECPA sans avoir le diplôme, et je croise les doigts, dans 15 jours, je suis à la commission pour partir en direction à Suresnes. Donc j'espère bien que je vais avoir l'obtention de ce droit de partir en formation à 50 ans pour finir mes quelques années qui restent comme directeur. Et puis, ce qui me guide aujourd'hui à vouloir reprendre des études, c'est franchement d'essayer de porter des projets. C'est-à-dire que je suis dans une position un peu instable, c'est-à-dire que je travaille à mon niveau et je fais le maximum sur l'année où je suis dans les endroits où je vais. Mais c'est une année, hein, où c'est jamais complètement. Donc c'est ce qui me pousse encore cette année à demander à partir une année à Suresnes. Alors forcément, ça m'éloigne aussi un petit peu de ma famille, mais c'est un choix et... Et les enfants le comprennent. Hein. D'ailleurs, j'ai encore 3 enfants à charge actuellement, dont une est en terminale S, une autre en seconde générale, et le troisième en quatrième avec une très bonne moyenne. Vous voyez, quand mes enfants sont en difficulté, eh bien, j'essaie de trouver le père, hein, la tierce personne qui va les aider. Et souvent, je fais appel à des collègues pour justement essayer de pallier à leurs difficultés. Et je crois que ça, c'est important d'essayer de donner du sens à ce qu'on apprend et d'être présent. Parce que moi, c'est ce qui m'a beaucoup manqué, hein, et je vais en finir là. C'est ce qui m'a beaucoup manqué, c'est-à-dire que je n'avais pas confiance en moi. J'avais personne pour me le dire. Et voilà, quoi, c'est pas facile. C'est pas facile. Et croyez bien que quand on est dans un système comme celui-ci, eh bien, les gens qui s'intéressent à vous, qui vous regardent différemment, même si on sait que c'est pas le moment, même si on sait que ça va pas porter ses fruits tout de suite, hein, il faut savoir que dans l'avenir, ça a résonance chez les personnes de se dire, tiens, à un moment donné, heureusement que cette personne était présente parce que je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Merci. Du moins, comme directeur de SECPA.
Donner la parole tout de suite à Jacques Chauvin.
Est-ce que ça vous ennuie si je parle sans le micro, ou est-ce que vous préférez le micro? Parce que je trouve que la salle est petite et puis moi j'y arrive. Par contre, je vais vous le lire parce que comme c'est quelque chose d'assez dense, ça pourrait partir dans des tas de directions et je préfère tenir. Oui. Je préfère tenir une ligne. J'ai appelé ça le sens de la marche. Se trouve dans Affiche Hebdo de janvier l'affiche d'une... Ça vous va comme... on entend bien ? C'est bon, allez, parfait. L'affiche d'une...